7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. C'est le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de ces dernières semaines. Aujourd'hui, Veiju Naravan, journaliste indépendante indienne. Good morning, Veiju.
Kasakai.
Nice to see you again. Paola Martinez Infante également avec nous, journaliste indépendante chilienne. Hola Paola.
Hola Emmanuel.
Et une nouvelle chatcheuse, Anna Maria Merlo. Buongiorno, benvenuta Anna Maria.
Bonjour, buongiorno.
Vous êtes journaliste italienne pour le quotidien Il Manifesto et c'est vous bien sûr mesdames qui choisissez les sujets de discussion aujourd'hui. Il sera question entre autres du phénomène de société MeToo, mais cette fois en Inde, mais aussi de la prix Nobel de la paix Nadia Mourad, du Brésil aux portes de la violence avec une société plus divisée que jamais entre les deux tours de la présidentielle, ou encore des jeunes diplômés italiens qui émigrent pour trouver un meilleur job. Voilà une partie du programme, des inquiétudes et des réjouissances. Nous entendrons aussi un témoignage assez incroyable d'une jeune femme victime d'une tentative de viol une nuit dans Paris et qui ne parvenait pas à porter plainte à cause d'un frein psychologique. Il y a comme une résonance avec le hashtag américain Why I Didn't Report, pourquoi je n'ai pas porté plainte. Et bien sûr vos commentaires si vous le souhaitez sur Facebook ou en message WhatsApp 33 1 84 22 71 71, vous postez le message et bien sûr j'en fais part à l'antenne.
Cuéntame qué te pasa.
I would like to make a few comments.
Ça commence à passer ça.
Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout s'il te plaît.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Non, mais si.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Tchatcher, qu'on pourrait traduire pour notre nouvelle tchatcheuse italienne par chiacchierare, ça serait un petit peu ça. Hein. Paola Martinez Infante, vous êtes journaliste chilienne qui regarde avec effroi les élections au Brésil. On est entre les deux tours.
Oui.
Entend scander le nom de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite. Il est en tête du premier tour avec 46% des voix, 29% pour Fernando Haddad, le candidat du Parti des Travailleurs de Lula. On se demande même si ce vote pour Bolsonaro n'est pas en fait une réaction contre le Parti des Travailleurs. Vous êtes inquiète, Paola Martinez?
Ah oui, c'est l'effroi, c'est la frayeur surtout, parce que vous disiez tout à l'heure, s'il y a, on est aux portes de la violence, je dirais qu'on est vraiment dans la violence. Parce que depuis ce deuxième tour, les résultats qui sont sortis, les gens, il y a eu une montée des violences dans une société qui est complètement bipolaire, qui est polarisée en fait dans les gens qui sont pour Bolsonaro et ceux qui sont pour les candidats des partis travailleurs. Il y a beaucoup d'éléments en fait qui expliquent peut-être ce qui se passe aujourd'hui. C'est déjà, bien entendu, les années d'incapacité des partis des travailleurs à faire face à la violence qui existait déjà au Brésil, à l'extrême pauvreté aussi qui vivent nombreux Brésiliens, tant dans les favelas comme ailleurs dans le pays. Et aussi, il faut savoir que cette montée, c'est une forme actualisée un peu de fascisme, il faut le dire. Hein. Et Bolsonaro, c'est un mec qui est décomplexé, qui, on dit, il trompe à la tropicale. Je dis, c'est pire que ça.
C'est qu'il n'a pas réussi en tant qu'entrepreneur comme Donald Trump. Il n'a jamais réussi en quoi que ce soit.
Mais c'était un député. Il faut savoir qu'il est en politique depuis des longues années. Depuis 27 ans, il fait la politique. Là, maintenant, il profite justement d'une opportunité. Pourquoi ? Parce qu'il se place comme un candidat anti-système. Ça, on a connu en France. Hein, ouais. Les candidats qui se positionnent en tant qu'anti-système. Et en même temps, il joue en fait sur la vague de la sécurité énormément, sur la vague des au chômage et de la incapacité des anciens gouvernements à gérer encore une fois, la question de l'extrême pauvreté. Pourquoi ? Parce que dans l'Amérique latine, malheureusement, ce qui prime avant tout, c'est le système néolibéral où on apprend à un gens, en fait, ce que vous existez en tant que consommateur. Vous existez parce que vous avez à avoir de l'argent. Et Bolsonaro, il vague aussi sur il surfe sur cette vague-là.
Et sur des valeurs ultra-conservatrices.
Voilà, et ce que j'allais dire, justement, il n'y a pas seulement la question économique, parce que le vote Bolsonaro, c'est un vote néolibéral, économique, il faut le dire, mais aussi c'est un vote très conservateur. Il faut dire que Bolsonaro, il a des propos infects, comme on dit, qu'il est nostalgique de la dictature, qui est pourquoi il rend hommage à un ancien tortionnaire. Il est admiratif de Pinochet, le dictateur qui a, qui a fait subir mon pays pendant 17 ans une dictature sanglante. Donc du coup, lui, il s'installe en effet comme quelqu'un qui va faire un nettoyage. Il y a un nettoyage qui aujourd'hui, et je pèse le mot, c'est un nettoyage même ethnique, parce qu'il a dit clairement l'autre fois, j'ai entendu parler dans des déclarations, qu'il dit les minorités, il faut que maintenant ils subissent. Nous, la majorité, on est là pour gouverner, pour imposer notre loi. C'est quand même très dangereux ce qui se passe aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a des gouverneurs, enfin des présidents comme Piñera, qui en est cervelé aussi, qu'il dit que le programme économique de Bolsonaro, c'est bien pour la région. De quoi il parle ? Lui propose de nettoyer les gens, de dire que l'homosexualité, c'est pas bien, et de faire une sorte de valorisation.
Il a déclaré il y a quelques temps qu'il préférait même que son fils meure dans un accident plutôt qu'il soit homosexuel. Alors on voit bien, c'est évidemment des déclarations à l'emporte-pièce, mais enfin, les mots dans un pays comme ça ont-ils encore une importance ?
C'est la question qu'on peut se poser. Ce qui frappe encore plus, selon moi, c'est que ce matin, par exemple, aux États-Unis, dans des journaux, et c'est tout le milieu des affaires nord-américain qui maintenant se positionne en faveur de ça. Donc, comme si toutes
la
ces choses...
La bourse de San Paolo se porte d'ailleurs plutôt bien.
C'est quand même frappant.
Mais c'est un mirage. Juste pour terminer, je pense que c'est un mirage. Il faut faire attention parce que là, justement, je disais à l'instant hors antenne, il y a les footballeurs maintenant qui commencent à soutenir aussi Bolsonaro. Il faut faire très attention parce que le Brésil, on sait pertinemment, c'est un pays qui est très football. Et là, maintenant, si en plus des footballeurs commencent à soutenir ce monsieur-là, forcément, il va arriver plus des gens qui vont voter pour lui parce que les gens ils réfléchissent pas en fait à l'importance de mettre un personnage comme ces messieurs-là aux portes du pouvoir.
Ouais. Et dans un pays, le Brésil, il faut le rappeler, c'est la moitié de l'Amérique latine en termes de population, 800 millions de personnes, c'est 50% du PIB, c'est vraiment le géant du continent sud-américain.
Oui, a été puissance pendant des années, a été classé numéro 7-8 dans l'échelle des puissances mondiales, mais encore une fois, j'insiste, on base tout sur l'économie, et là, il faut faire attention parce qu'on en est vraiment dans le problème des sociétés.
Alors, on peut espérer, il est crédité de 59% des intentions de vote pour le second tour, on peut espérer un sursaut, notamment à cause ou grâce à cette vague de violence qui est absolument ignoble entre les deux tours à l'égard des homosexuels, des journalistes. Il y a une vague d'agression de gens de gauche,
aussi,
de féministes. Est-ce qu'on peut imaginer un sursaut ?
Je suis très pessimiste. Honnêtement, je suis très pessimiste parce qu'en fait, je vois encore une fois cette polarisation de la société. Les gens, ils plébiscitent énormément cette idée de que lui, il veut armer la population pour qu'il puisse s'autodéfendre.
En fait, c'est une tendance un peu globale. Shift, je dirais, vers l'extrême droite, on a bien vu aux Philippines avec l'arrivée de Duterte,
tout à fait.
Qui n'arrête pas de littéralement
de
tuer les opposants, qui dit que je vais tuer tous les gens qui ne sont pas, entre guillemets, souhaités par la bonne société. Donc, quelque part, c'est vraiment le nettoyage.
Sous couvert de lutter contre le trafic de drogue, la consommation de drogue, etc. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous, en tant qu'Italienne, Anna Maria, parce qu'évidemment, les vagues populistes, vous en avez connu en Italie et vous en connaissez à l'heure actuelle. Tout ça regroupe des partis, des idées assez disparates et des électorats assez disparates, avec des points de vue sur l'économie très différents. Mais le point commun, c'est quand même un projet affiché de retour à l'ordre social, défaut d'une justice sociale.
Il y a comme un esprit de folie qui prend le monde. Peut-être cette vitesse, l'Internet a quand même casser beaucoup de choses, même si c'est très intéressant de l'autre côté. Mais peut-être on n'a pas les codes pour comprendre. Les gens sont dans un état de confusion mentale en Europe, mais ailleurs aussi, parce qu'on voit aux Philippines, des choses. Il y a comme un désir de revenir au passé, un passé qu'on fantasme, où c'était pas si bien que ça, quand même, ce passé-là.
Un passé autoritaire.
Et en plus, ce discours autoritaire au Brésil, on voit bien, plus il y aura de désordre avant le vote, plus il y aura de votes pour ce monsieur qui dit et qui va porter encore plus de désordre, parce que quand il y a une arme sur scène à la fin de la pièce, elle tire.
Oui, mais il faut dire aussi, en fait, ce qui arrive surtout, c'est arrivé en France, c'est arrivé au Chili, c'est arrivé partout dans les élections. Déjà, c'est un parenthèse social où tout peut arriver. Ça, c'est extraordinairement vrai. Et en même temps, les gens votent contre, en fait. Et cette vote contre, c'est parce que les autres, les précédents gouvernements, ils n'ont pas fait leur travail aussi.
Ouais. Donc, du coup. Bon, ça faudrait toute une émission pour faire le bilan du Parti
des
travailleurs.
Donc, hein. Là, évidemment, on n'est pas là pour ça. Ce n'est pas eux non plus les fautifs entiers de cette histoire. Et aussi, il faut dire que Bolsonaro, c'est un personnage qui a un charisme, il faut le dire quand même.
Et qui n'est pas entaché de scandale de corruption.
Tout à fait.
Lui,
et justement, ce que j'allais dire, il n'est pas entaché de corruption. Et c'est lui, c'est ça qui joue en fait sa carte à faveur, parce que lui, il se positionne encore une fois comme le candidat anti-système qui va nettoyer tout la. Excusez-moi, les shit.
Alors, on quitte cette actualité brûlante et ô combien inquiétante avec vous, Anna-Maria Merlopoli, parce que vous voulez revenir sur un phénomène qui est une lame de fond depuis plusieurs années, la fuite des cerveaux italien, qu'on parle de fuga dei cervelli, hein, ouais, c'est ça en Italie. Aujourd'hui, la journée mondiale du refus de la misère. Alors certes, la fuite des cerveaux italiens, ce ne sont pas les plus pauvres qui quittent l'Italie depuis quelques années.
Non, mais c'est quand même un indicateur de l'état du pays et du désespoir surtout des jeunes. Parce
votre pays est le huitième pays où la fuite des cerveaux est la plus forte dans les pays développés et émergés.
Oui, la destination, c'est surtout l'Europe.
L'Angleterre, l'Allemagne,
oui,
la France.
Angleterre, Allemagne, Suisse, beaucoup aussi, France. Et un quart de ces jeunes, même un tiers, parfois sont très diplômés. Et parce qu'il y a un blocage, il y a un chômage des jeunes.
On n'en parle jamais, parce que l'Italie est aujourd'hui devenue une terre d'accueil, malgré elle, d'ailleurs, on le voit bien. Alors qu'historiquement, c'était une terre d'émigration que l'on fuyait. En 2017, 81 000 Italiens ont émigré, ont quitté le pays pour trouver un boulot à l'extérieur.
Oui, c'est un phénomène nouveau et que ça revient, disons, parce que a toujours été une terre d'émigration, l'Italie. Et ça a été d'ailleurs bien oublié, malheureusement, parce que l'accueil, même si dans des cas ponctuels et locaux, il y a encore un accueil
des migrants,
mais disons, au niveau, surtout l'image qu'on donne au monde qui est tragique, parce que
ces cerveaux italiens, pourquoi partent-ils? Ils sont diplômés,
par exemple,
l'État a investi en eux.
Oui, l'État a investi.
Ils sont bien formés en Italie.
Oui, donc c'est comme une hémorragie pour l'État, parce que l'État dépense pour les former. Mais après, il n'y a pas
d'opportunité.
Parce que déjà, et c'est quand même une autre donnée, il y a moins de diplômés qu'ailleurs, dans les pays de l'OSCE, en Italie. Mais donc, il n'y a pas le terreau, parce qu'il n'y a pas investissement dans la recherche, il n'y a pas une volonté de, disons, la petite et moyenne industrie on a beaucoup bien dit d'elle, que c'était quand même très vital. Mais en réalité, il faut
quand
même...
Il n'y a pas les jobs derrière.
Oui, mais ce n'est pas dans la recherche, pour aller de l'avant. Et l'État ne fait pas sa part. Et il y a ce phénomène d'émigration vers l'étranger qui s'ajoute à un phénomène qui revient d'émigration à l'intérieur. Parce que le sud d'Italie se vide. Et la première étape, c'est Milan. Même plus Rome. La menace, c'est Milan, c'est le nord, les gens du sud. Et après, c'est l'étranger. C'est
le syndicat des patrons en Italie parle quand même d'un gigantesque gâchis.
Et apparemment, c'est 1% du PNB, dit le syndicat du patron, qui est perdu dans cette hémorragie.
Alors on peut aussi dire que c'est normal, que la mondialisation, c'est la circulation des cerveaux. Et la plupart des diplômés de la Bocconi, business school à Milan, partent évidemment trouver des jobs très bien payés à Londres, mais qu'ils reviendront dans quelques années.
Et non, c'est pas le problème, c'est ça.
Qu'ils ne reviennent plus.
Par eux, mais il n'y a pas des étrangers qui viennent.
Ah.
C'est ça. C'est pas c'est pas un Erasmus puissant, grande puissance qui ferait bouger.
Une activité d'entrée-sortie des gens.
Non. Non, c'est un départ, mais les arrivées... Il n'y a pas que de diplômés, d'ailleurs, qui partent. Hein. Beaucoup de jeunes aussi... Ça,
mais c'est un rapport avec la crise. Et encore une fois, la crise 2008, elle est là. Oui. C'est arrivé en Espagne, c'est arrivé aussi, même en France. Les gens aussi en France, ils parlent de ça.
Même si le taux de chômage en Italie est redescendu en dessous de la barre des 10%, mais pas pour les jeunes. Hein.
Pas pour les jeunes, ça reste
c'est
plus
les
que
30%.
Ouais, 37%. Et ben, au sud, ça touche des
Veijoux Naravane, vous souhaitez revenir dans cette émission sur la dépénalisation de l'homosexualité en Inde, votre pays. C'était le 5 septembre dernier par la Cour suprême.
It was a royal secret that I'm gay.
I'm feeling amazing. We're going to party. I don't know. Is this so difficult to express?
Really relieved. It's a huge weight off our shoulders. It was a lot of nights we couldn't sleep. And it's finally, everything's fine for all of us.
I am a Punjabi.
Alors juste avant qu'on danse, on entendait le prince dont je vais très mal prononcer le mot, Veijoux Manvendra Singh Goyal, et qui dit le fait que je sois gay, c'était un secret royal.
Oui, et... absolument, parce qu'il est d'une famille royale, tout le monde savait. D'ailleurs, il y a eu plusieurs princes, même sous les Anglais. D'ailleurs, les Anglais ont déchu certains princes à cause de... C'était dans les années 1860, 70, 80.
L'interdiction de l'homosexualité, c'est 1861. C'est la loi émise par les Britanniques.
Et cette loi anglaise qu'on a héritée, qui datait effectivement de 1860.
Qui a mis en prison Oscar Wilde, d'ailleurs. Hein,
oui, exactement, voilà. Qui a mis en prison Oscar Wilde. Là, enfin, après une très grande lutte, la Cour suprême a décidé que l'homosexualité n'était plus un crime. Et ça, c'est vraiment une victoire pour toute la communauté LGBT. C'est vraiment quelque part, ça a ouvert une voie pour une grande population qui vivait dans la peur, qui vivait dans la peur de la persécution par la police qui est très corrompue parce que...
Il y avait des peines de prison pour les gens qui étaient...
Non, il n'y avait pas des peines de prison, mais la
c'était
police
disait... C'était passible de prison à vie, mais dans les faits, en fait, il y a
c'était
eu...
C'était la menace.
Il y a eu 200 personnes condamnées, sinon c'est...
Extorsionner les gens.
Voilà. Ah oui.
Alors, tu as commis un
pour
crime,
garder le silence,
donc pour garder la silence, tu me donnes 500 roupies, tu me donnes 1000 roupies. Et c'était vivre dans la peur constamment.
D'accord.
Ce tabou a été cassé. Ceci dit... Il y a toujours des parlementaires qui sont contre. Mm-hmm. Il y a toute une lobby des gens qui pensent que l'homosexualité est complètement contre nature et qui doit réprimer, que les homosexuels doivent être envoyés dans les camps de rééducation pour essayer de changer leur avis et leur inclinaison sexuelle. Ça, l'Inde restera pendant très longtemps une société extrêmement conservatrice.
La question, c'est est-ce qu'on peut changer les mentalités avec une loi?
On ne peut pas, mais au moins la loi donne une certaine protection parce que jusqu'à une certaine mesure, l'Inde n'est pas une démocratie parfaite, loin de là. Les gens, on freine la loi très facilement, mais quand même les cours donnent une certaine protection.
Il y a un psychanalyste en Inde que vous devez bien connaître, Veijoux, si ce n'est même personnellement, Sudhir Kakkar.
Oui, c'est un grand copain.
Qui dit en Inde, hormis quelques membres de l'élite anglophone des grandes villes dont vous faites partie, Veijoux, les hommes qui ont des relations avec des hommes, et ils sont nombreux, ne s'identifient pas comme homosexuels. Ils ne compromettent donc pas leur identité.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'ils ont des relations, mais ils ne s'affichent pas. Et souvent, on voit que les hommes marchent dans la rue, main dans la main, ou une main autour de la taille de l'autre. Et c'est pas vu comme quelque chose d'homosexuel parce qu'on célèbre l'amitié presque intime entre deux hommes.
Du même sexe. Et les femmes dans tout ça.
Et les femmes aussi, pareillement.
D'accord.
Mais en parallèle. Donc, c'est un phénomène très indien parce que les sexes sont gardés séparés à cause des, de la morale publique, etc. Parce que vraiment, les mariages sont arrangés. Donc, une fille et un garçon qui se rencontrent hors du mariage, bah, quelque part, c'est aller contre, oui, contre les conventions.
Ah. Mais ça a été le cas dans de nombreux pays, y compris en Europe, hein, où il n'y avait pas d'identité homosexuelle, mais des pratiques homosexuelles. Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le pays, donc en dehors des grandes villes anglophones, élitistes, etc., est-ce qu'aujourd'hui, on va aller au fil des années vers une acceptation de l'identité homosexuelle au sens d'histoire d'amour, en fait?
Ah oui, tout à fait, parce que d'abord, légalement,
Et pas une sexualité de la frustration, comme c'est souvent interprété.
Je suis d'accord. Mais l'Inde, c'est un des rares pays qui admet le troisième sexe, officiellement. Donc, vous pouvez être de sexe masculin, de sexe féminin ou du troisième sexe. Et ça, c'est admis légalement. Donc, le temps que ça prendra pour filtrer jusqu'aux esprits dans les villages les plus éloignés, parce que tout le monde reconnaît qu'il y a des pratiques homosexuelles, mais personne n'ose prendre le nom de l'homosexualité. Quelque part, il y a une espèce de tabou sur l'articulation publique autour de l'homosexualité.
Oui, mais j'ai rejoint ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Le fait que la loi existe aujourd'hui, justement, ça permettra notamment d'enlever déjà une pierre importante, une chape de plomb qui existait dans la communauté. Et même, on sait pertinemment que les lois ne vont pas changer les mœurs du jour au lendemain. Ça, on le sait pertinemment. Ça arrive dans tous les pays, dans tous les sphères de la société. Mais au moins, notamment, les gens ils pourront s'exprimer plus librement. Ils ont une place ouverte dans la société.
Absolument, et si nécessaire, c'est la Cour qui donnera la protection qu'il faut.
Mais n'est pas de criminaliser pour son orientation sexuelle, ça, tout ça, aberrant au XXIe siècle.
On va passer maintenant à, évidemment, la bonne nouvelle de ces derniers jours. Paola Martinez Infante, un prix Nobel, l'Irakienne Nadia Mourad, nouvelle prix Nobel de la paix, ancienne esclave sexuelle de Daesh. Elle partage son prix avec le chirurgien congolais Denis Mukwege. Elle est aujourd'hui la porte-parole du drame des Yézidis.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Bundemao kote tagon. Shwara se roshia hune Besalman bin Yawi wa hamakojen. Daesh.
L'émir de Daesh est venu parler au chef de notre village. Vous avez 3 jours pour vous convertir ou on vous tuera tous. Des centaines de soldats de Daesh sont venus, nous ont rassemblés dans l'école. Ce que souhaite faire Daesh, ils nous l'ont dit quand ils sont venus. Nous voulons supprimer les Yézidis de la surface de la terre. Voilà. Nadia Mourad, nouvelle prix Nobel de la paix. Son combat, c'est faire connaître les persécutions commises en 2014, reconnaître comme un génocide.
Tout à fait. C'est le récit que vient d'entendre, ça est arrivé justement août 2014, ils sont arrivés dans le monde Sinjar, donc ils ont installé justement les Yazidis et ils ont kidnappé énormément de gens, ils ont tué presque tous les hommes et les femmes, ils ont été condamnés justement à être esclaves sexuels. Et aujourd'hui justement ces prix, j'ai dit bon évidemment c'est un prix, je me réjouis de ces prix, mais je ne me réjouis pas autant que ça parce que c'est un prix qui est taché des sons, des souffrances, des vies coupées, des vies brisées.
Environ 12 000 Yazidis tués, hein, et il y a surtout encore 3000 femmes yézidis qui sont toujours portées disparues.
Toujours portées disparues, toujours en main des Daesh, toujours en train de subir en fait des assaisissements sexuels, parce qu'il faut le dire ouvertement. D'une part, en fait, évidemment, je me réjouis de ces prix Nobel parce que, d'ailleurs, l'a dit même le Mukwege et Nadia Mourad, que ces prix, en fait, la voix qu'ils ont portée depuis des années, on l'entend enfin et ça peut aussi porter encore plus loin, c'est vrai. Mais en même temps, justement, ça fait un an, il y a un an, elle a fait un discours sublime à l'ONU, très émouvant, où il disait en fait, qu'il était dépourvu de toutes armes en fait, pour pouvoir justement aller en aide de ces femmes-là. Et moi, je me dis, je parle pour toutes les femmes du monde, c'est bien entendu, parce que là, on parle du viol comme une arme de guerre dans ces zones de conflit, notamment en République du Congo, et bien entendu dans la région des Daesh, dans la Syrie. mais aussi je parle pour toutes les femmes au Mexique, par exemple, qui subissent des violences à cause des narcotrafiquants. Au Brésil, aujourd'hui, pareil, à cause de cette montée des violences contre les femmes aussi. Donc, bien entendu, ces prix Nobel de la paix, c'est une extraordinaire opportunité pour en parler et aussi pour, enfin, les organismes internationaux qui trouvent les moyens d'accéder dans ces régions-là où il n'y a personne peut accéder, où peuvent, encore une fois, sauver ces vies, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas que les femmes mûres qui subissent ces violences sexuelles, c'est des petites filles de 9, 10 ans hein, qui sont vraiment à la merci de ces bêtes, des animaux, qui ne voient dans la femme qu'un objet, un objet marchand.
Anna Maria.
Non, ce qui frappe, c'est justement le viol comme arme de guerre.
Et qui laisse les traces et les plaies les plus durables,
mais quand
finalement.
On nous a raconté, depuis la guerre du Golfe, la première, qu'il y avait la guerre chirurgicale qu'on voyait dans un écran vert, comme si c'était un jeu vidéo. Et là, on voit que la guerre devient de plus en plus terrible pour les populations civiles. Et ça, les gens en Occident ne le voient pas d'une certaine façon, ne le savent pas, parce qu'ils voient l'écran vert comme un petit jeu.
Il y a avec distance en même temps,
la bombe intelligente, je ne sais pas.
Alors le drame yézidi, il a quand même été très médiatisé. Néanmoins, on peut se poser la question de quelle mobilisation internationale à l'heure actuelle pour faire libérer les femmes qui restent captives. On n'entend pas parler beaucoup de la mobilisation.
Absolument. Aucun, très peu en tout cas. Et puis on parle aussi de ces filles qui ont été kidnappées par Boko Haram.
Bien sûr. On n'a plus entendu parler. D'ailleurs.
On a fait une grande campagne de presse.
Avec Michelle Obama, oui, il y avait un hashtag, etc.
Lâchez nos filles. Mais moi, quand je couvrais la guerre de Bosnie, là aussi, on a vu énormément de viols et l'utilisation de viols comme arme de guerre. Pour la première fois, post-Seconde Guerre mondiale, c'était effectivement dans l'Europe qu'on a commencé à voir ça. Et puis après, évidemment, dans les régions de Grands Lacs et tout ça, ça s'est reproduit, ça se reproduit absolument régulièrement avec les Rohingyas. C'est aussi exactement la même chose. Et il n'y a pas de l'indignation. C'est comme si on était quelque part blasé, vacciné, que
d'une
nos cerveaux faisaient l'ajustement et nos cœurs aussi aux pires choses qui arrivent. Je veux dire, on est en train de parler des choses qui sont tellement mauvaises, terribles, qui baissent nos esprits collectifs, qui nous met dans une espèce d'abjection humaine, une manque de générosité et une manque d'engagement social et politique. Et c'est ça qui m'effraie, qui me désespère, en fait.
Nos cerveaux font l'ajustement du pire. Ça, c'est une formule qu'on va,
qu'on
va conserver, Véjou.
Bien entendu. Et en même temps, ça, évidemment, ça s'attaque aux populations les plus vulnérables, les femmes, les enfants. Et encore une fois, moi, ça me sidère de voir comment il y a énormément d'organismes internationaux, la ONU, les trucs, les droits de l'homme et tout ça. C'est très bien parce qu'ils se tapotent le dos dans les conférences, ils font des petits pots entre amis. Et derrière tout ça, qui sont sur le terrain, les associations qui n'ont pas les moyens de faire et d'arriver à quoi que ce soit, les gouvernements qui ne font rien non plus pour arrêter la massacre. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est les populations civiles qui s'organisent pour pouvoir aller secouer ces gens-là, par exemple. L'autre fois, j'ai vu un documentaire sublime, notamment il y a un monsieur, un Irakien, qui c'est lui qui s'est engagé personnellement, un ancien contrebandier, attention, il s'est engagé personnellement pour aller chercher les familles yézidis. Donc, évidemment, c'est pris, c'est un porte-voix pour que les choses puissent enfin arriver à une bonne issue.
Bon, dans cette émission, c'est vous qui choisissez les sujets, mesdames. Et évidemment, il y a des sujets moins graves. Et heureusement, oui. Anna-Maria Merlo-Poli, cet été, près de 200 millions de touristes ont sillonné le continent européen. Le pronostic pour 2030, c'est 500 millions de touristes.
Destination touristique des plus prisées, le Portugal est marqué d'une histoire.
Bienvenue dans mon pays, Portugal.
Septembre dernier, il y a quand même eu des manifestations à Lisbonne, à Porto, pour protester contre la hausse des prix du loyer à cause des locations touristiques de courte durée. Anna Maria Merlo-Poli, vous parlez, avec d'autres d'ailleurs, de villes européennes qui deviennent maintenant victimes du surtourisme.
Oui.
Mais qu'est-ce que c'est le surtourisme?
Parce qu'il y a 1,3 milliard de touristes dans le monde. C'est 11 10% de la population mondiale qui vit du tourisme.
C'est pourquoi ils viennent tous chez nous ?
C'est la première industrie au monde, plus que l'acier, plus que l'automobile. Oui. Mais le problème, c'est que ces touristes-là veulent aller tous au même endroit. Je pense que l'exemple, le princesse de Venise, il y a 30 millions de touristes par an sur une population que maintenant s'est réduite à 56 000. Parce que les loyers, n'en parlons même pas, tout est pour, au service du tourisme, les transports, les bateaux.
Mais ça veut dire qu'il y a trop de touristes par rapport à ce que peuvent supporter les villes, c'est ça que ça veut dire aujourd'hui ?
Parce que tous veulent aller au même endroit. C'est ça le problème. Par exemple, les gros bateaux pour Venise, là, c'est un sacré problème.
Aussi, en Espagne, c'est
pour Venise, c'est aussi la fragilité de l'architecture. Parce qu'on a il y a eu une manif récemment, justement, des militants anti-gros paquebots sont allés à un petit bateau contre. Parce que c'est quand même, ça modifie le paysage.
Pour bloquer,
c'est une espèce de building derrière les monuments et les
vagues. De révolte qui est d'ailleurs pas toujours très friendly pour les touristes. Hein, qui portent-ils à eux seuls cette responsabilité ? C'est toute la question. Mais au Baléares, il y a eu des protestations dans les hôtels à l'aéroport, où il y a des habitants de Palma qui ont jeté du crottin de cheval à la figure des vacanciers. De quoi changer sa destination de vacances pour la prochaine fois ? Barcelone, il y a les locaux qui ont fait tomber des touristes de vélo qui les ont pris à partie dans les cafés. Puis vous citiez ces espèces de bateaux pirates à Venise pour stopper les en toute illégalité. Évidemment.
Parce que c'est très controversé. D'un côté, c'est
responsable. Parce qu'on a tous visité ces lieux-là.
Les tour opérateurs qui bradent les prix.
C'est vrai, mais il faut aussi dire.
C'est une démocratisation du tourisme.
Il faut aussi dire qu'à Venise, et dans certains endroits, il y a un problème particulier qui est ce qu'on appelle les visites d'une journée, où les gens viennent par les autobus, ils descendent, ils viennent avec leur sandwich et leur bouteille d'eau.
Oui, mais c'est des touristes qui viennent de loin, souvent des Asiatiques, souvent des Chinois, qui veulent visiter un maximum en un minimum
absolument.
De jours, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vacances.
Et on passe une journée, et si on est japonais, on a son bento box qui est délivré dans l'autobus, on mange son bento box dans l'autobus, on fait
mais
un tour.
Mais il laisse pas déchets, les Japonais.
Oui, c'est ça.
Il paraît qu'à Florence, on arrose les marches de certaines églises pour ne pas empêcher les gens de pique-niquer parce qu'ils vont avoir les fesses mouillées.
C'est le décor de la ville, etc. Parce qu'effectivement, on voit ces gens avachis sur les marches des églises, qu'après, il y a aussi un peu mal élevés. Certains laissent les déchets.
Bon, je dirais beaucoup, pas certains. Beaucoup de gens sont très mal élevés.
Oui, mais bon, c'est quand même, il faudrait trouver là un équilibre.
Il faut éduquer les touristes.
Un équilibre entre.
Il faut faire grandir le mouvement du slow tourisme. À l'image du slow food que vous avez inventé, les Italiens, le slow food. Nourrir lentement, bien, de bonne qualité.
Donc il y a plein de beaux endroits aussi qui ne sont pas les hauts lieux du tourisme. Mais là, ils vont rester, tout le monde, tous citoyens du monde.
Y compris en Italie du Nord, n'est-ce pas, Anna Maria, dont vous venez d'ailleurs.
Oui.
Il y a des très beaux châteaux dans la région de Parme. Il n'y a personne en plein mois d'août, c'est vide.
Même,
et le musée de Turin, où il y a une des plus belles collections d'égyptologie, totalement vide en plein mois d'août.
Parfois.
Je peux confirmer.
Mais donc, il faut trouver un équilibre entre l'économie, cette économie qui est assez intéressante, et pour vivre, parce qu'elle fait vivre des régions entières.
Les commerçants à Venise, par exemple, ils disent qu'on a des restaurants et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, 40-50% des touristes qui viennent à Venise, ne met pas leurs pieds dans les restaurants, achètent des babioles bas de gamme, qui viennent, qui mangent leur sandwich, qui jettent leurs déchets et qui partent.
Oui, mais les torts sont bien partagés parce que parfois les restaurants font des prix.
Vous n'avez pas encore accusé Airbnb qui pèse à peu près 10% du tourisme mondial. Vous vous apprêtez à accuser Airbnb ou pas
Oui, mais c'est un sacré problème pour les grandes villes. Par exemple, à Paris,
ça gentrifie les villes aussi.
Je pense que c'est 20 000 au plus.
Avec, des mesures, avec des mesures maintenant de limitation oui. dans les réglementations, dans, oui. dans une partie des villes, notamment
ça fait monter
à Berlin.
Le loyer,
ça fait un vrai problème.
Aussi pour la programmation de la ville, pour les écoles. Il y a des écoles qui ont fermé, je crois, à Paris. Il y a une école à cause de trop de touristes dans ces appartements.
Et pas assez
d'habitants.
Donc
il n'y a plus
d'enfants.
Ouais.
Enfin, c'est la conséquence aussi des prix de l'immobilier. Veijun Aravan, le MeToo arrive en Inde. La parole se libère un an après l'affaire Weinstein. Depuis quelques jours, c'est un déferlement d'accusations sur les réseaux sociaux. On ne va pas citer toutes les affaires. Il y en a beaucoup.
Non, mais il y a
mais quelques-unes, celles qui vous ont le plus marqué, surtout.
Énormément, parce qu'il y a beaucoup de ces hommes que je connais personnellement. Et je peux témoigner personnellement d'avoir été harcelé d'une manière la plus éhontée par l'homme qui est aujourd'hui notre ministre d'affaires étrangères.
Secrétaire d'État aux affaires étrangères qui est accusé de harcèlement sexuel
absolument.
Par 6 femmes journalistes à l'époque où il était lui-même journaliste.
Maintenant, c'est devenu 9 femmes journalistes ou 12 femmes journalistes et moi, je serai la 13e.
Vous êtes en train de nous annoncer là en direct que vous allez porter plainte.
Ah oui, absolument.
Très bien.
Parce que ce sont toutes des jeunes femmes. Moi, je suis une femme beaucoup plus âgée qui est plus proche en âge de cet homme. C'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais à New York et cet homme était à New York aussi. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Et je connais énormément de ces éditeurs, de ces grands éditeurs de la télévision, etc. Je les connais personnellement. Et je sais que ces histoires sont vraies. Et il est temps que les hommes comprennent que nos vies, que nos corps, il faut nous demander avant.
Qui a lancé la première alerte pour le cas du ministre ?
C'était une jeune femme qui avait écrit il y a 3 ans en disant que un certain éditeur qui est très connu, qui est devenu un homme public, etc.
Sans citer le nom.
Sans citer le nom. Et aujourd'hui, elle dit, voilà, le type dont j'avais parlé, c'est celui-ci.
Et je confirme. Et il risque quoi ? Il est quoi ?
Enfin... Il a engagé 94 avocats pour le défendre.
Il va s'armer pour se défendre.
Alors, ça touche tous les milieux. Évidemment, le monde du cinéma. Il y a une plainte d'une actrice de Bollywood contre un autre comédien. Il y a une étudiante en droit qui a publié la liste de 50 profs prédateurs.
Et j'étais en fait la présidente de la comité contre l'harcèlement sexuel dans mon université et j'ai eu ce cas de ce professeur qui a été cité sur cette liste, qui a été publiée de manière anonyme.
Et, enfin, en même temps, c'est pas comme ça que doit fonctionner la justice.
Non, justement. Et c'était ça mon argument principal, c'est qu'on ne fait pas des accusations anonymes. Mmh. On doit avoir le courage de se identifier quand même.
Et surtout de porter plainte en justice et de laisser faire la justice
absolument.
Dans un état de droit.
Absolument.
Non ?
Mais il y a eu beaucoup de jeunes femmes qui m'ont dit que la justice est tellement longue que les gens qui sont en train de prendre les décisions sont des hommes au pouvoir qui vont défendre les autres hommes. Donc nous, les femmes, on n'a pas la possibilité véritable d'avoir la justice et donc on prend recours par l'anonymat.
Vous restez avec nous, les tchatcheuses. Dans quelques instants, un témoignage en France qui résonne avec le récent mouvement Why I Didn't Report. Pourquoi je n'ai pas porté plainte. Ça sera juste après Morgan G.
In sweet light. A green meadow, a stunning sight. My horse just died, and I realized that this meadow was a mirage. My horse just died, and I realized that this meadow was a mirage.
Human Soldier, un an après l'affaire Weinstein et le lancement du hashtag MeToo, qu'en est-il aujourd'hui des violences faites aux femmes en France? Selon une enquête de la Fondation des Femmes, la parole s'est libérée. En atteste un chiffre significatif, le nombre de signalements pour violences sexuelles auprès de la police est en hausse de 23% en un an. Tatiana, 33 ans, parisienne, fait partie de ces femmes qui ont choisi de porter plainte. Mais ça n'a pas été si simple. Elle raconte au micro d'Alice Milo.
Ce jour-là, c'était le 1er septembre 2018. C'était le mariage d'une de mes meilleures amies. Donc il y avait eu le mariage civil à la mairie le midi et on se retrouvait le soir pour un pot, pour fêter voilà, le mariage. Donc je suis arrivée vers 19h avec mon vélo. C'était à 10 minutes en vélo de chez moi. On a passé une super soirée, on a rigolé, il y avait plein de copains, il y avait la famille, enfin une soirée de mariage hein, classique. Ils avaient décoré la salle avec des énormes bouquets de gypsophiles. Et donc à la fin, elles n'allaient pas être perdues, donc elles ont été distribuées à tous les invités. Et donc je suis allée récupérer mon vélo et j'ai attaché le bouquet de gypsophiles sur le porte-bagages avec l'étendeur. Et puis là, je me suis dit, oula, je suis quand même pas très très fraîche, attention sur la route, vas-y prudemment. Et puis à un moment dans mon trajet, c'était en côte, et là je sens en fait quelqu'un qui accroche mon porte-bagages. Donc je me retourne, je comprends pas très bien, les fleurs tombent. Donc là, ma première réaction, c'est mais pourquoi vous voulez prendre mes fleurs? Et puis l'homme ne parle pas, il commence à avancer vers moi, et là, j'ai un pressentiment, mais comme chaque femme à Paris avec un homme qui vous aborde à 2h du matin, bon, on se méfie. Et donc je me dis là, oh, je vais pas récupérer mes fleurs. Donc je repédale et je repédale assez vite jusqu'à chez moi. J'arrive devant le hall de mon immeuble et au moment où je suis au milieu de l'entrebâillement de cette porte, je sens une main sur mes fesses. Et donc je me retourne très 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 vite en lâchant mon vélo et là je vois l'homme que j'ai vu plutôt avec les fleurs, et qui pose ses deux mains sur mes seins, il caresse mes seins. Et là, je sens et je perçois que l'acte sexuel a commencé pour lui. Et il est déterminé à ce qui se passe, à violer une femme dans le haut de son immeuble. Je hurle et je me débat. Lui continue à me caresser, à toucher mon corps, à caresser mes seins. Et là, je déploie une force herculéenne. J'arrive à le repousser derrière un peu la porte et à pousser de toutes mes forces, mais par contre il pousse sur la porte.
Vous êtes chacun d'un côté de la porte, lui il pousse d'un côté et vous dans l'autre sens.
Exactement, et la porte est toujours entrebâillée et à un moment je vois deux autres hommes arriver de chaque côté de sa tête. Et là la peur de ma vie est en train de se transformer en un cauchemar. C'est-à-dire que là je me dis, ils sont trois, je ne m'en sortirai jamais, je ne peux pas pousser. Et je ne sens plus de pression sur la porte. Donc je ne comprends pas bien. Je vois que l'agresseur a disparu du champ de vision derrière la porte. Il ne reste que dans mon champ de vision à droite, un homme au crâne rasé, et qui me dit « police, police, police ». Et là, je comprends que je suis sauvée. Je comprends qu'en fait, l'autre policier l'a mis à terre, l'a menotté, et l'a mis dans le véhicule de police. Et donc il me demande tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Et donc je dis tout de suite, il m'a touché les fesses et les seins. Et je dis tout de suite, mais c'est pas grave, il s'est rien passé. Moi qui suis dans un environnement où on est très sensibilisé à ça, j'ai fait une campagne de com, moi, contre le harcèlement sexuel dans le métro. Moi, je dis, il ne s'est rien passé, il m'a juste touché les fesses et les seins. C'est la première phrase que je dis au policier. Il me dit tout de suite, non, c'est très grave ce qui vient de se passer. Mais il a fallu qu'il reste une demi-heure avec moi dans ce hall d'immeuble pour que je comprenne ce qu'il disait. Je ne comprenais pas. Dans ma tête, je me disais, mais c'est rien. Il n'est pas allé jusqu'au bout, ça va aller. Et ma deuxième pensée, c'est effectivement, c'est de ma faute. Je suis rentrée seule, à vélo, en robe courte. J'avais trop bu, je ne me suis pas protégée de ça. Parce que ça existe, on le sait, toutes les femmes le savent. Et le policier me répète ça plusieurs fois, je m'en souviens très bien. Personne n'a le droit de vous toucher si vous n'avez pas envie. C'est grave, jusqu'à ce que ça rentre dans mon cerveau, je crois. Après, il dit, mais est-ce que vous voulez pas porter plainte tout de suite? Voilà, il était quasi 3h du matin, je rentrais de soirée. Mais il me dit, il faut venir demain matin. Hein. Et là, il me redit, c'est très grave ce qui s'est passé. Nous, on le met en cellule, là. On l'emmène en garde à vue. Et là, le travail du policier est fondamental à ce moment-là, dans le hall de mon immeuble, parce que sans ça, sans ces paroles, sans le temps qu'il a passé avec moi, je rentre chez moi, je fume 200 clopes et je me couche, mais je fais pas tout ce que j'ai fait. Si les policiers n'étaient pas intervenus, ce serait allé très loin. Ils voulaient me violer. Et ça, je le rajouterai d'ailleurs à chaque fois et au procès, ça a été mes derniers mots aussi, parce que je l'ai senti. Et qu'une femme, ça sent ça. Une femme à Paris qui a l'habitude d'être un peu emmerdée, elle sait la différence entre des attouchements et un type qui veut vous violer.
Tatiana a donc porté plainte le lendemain de son agression à Paris. Son agresseur a été condamné pour agression sexuelle, 10 mois de prison ferme, 2000 euros de préjudice moral, interdiction d'accès au 19e arrondissement de Paris, donc où vit sa victime. 15% des viols font l'objet d'une plainte seulement. Anna Maria Poli.
C'est difficile, c'est intériorisé d'un côté. La dame dit, je me sentais coupable. Parce que ça, c'est l'éducation qui vient de loin. Parce que on a beaucoup de témoignages de juges, aussi des premiers procès. Il y a eu en Italie, il y a quelques décennies, là, un procès incroyable, où le juge était un prédateur lui-même dans les questions qu'il posait. Et la fille était comme si elle l'avait cherché par ses vêtements, et quand même, même le juge est arrivé à dire des choses par rapport au plaisir d'être violé, des horreurs. Et ce procès-là avait été filmé. C'est assez impressionnant. Et c'est toute une éducation, là. C'est très difficile parce qu'après, toutes les femmes savent qu'après, il faut passer par des interrogatoires.
Il faut raconter ce qui s'est passé.
Interrogatoire, visite.
Il faut revivre la scène aussi. Donc, c'est traumatique, je pense. C'est très fort aussi de subir ça. Et en même temps, il a dit une chose intéressante. Il dit grâce aux policiers. C'est-à-dire que c'est un travail de donner la parole, d'essayer aussi de comprendre, de ne pas juger.
C'est ce qui est en train de changer.
Pas juger du tout.
C'est la formation des services de police depuis quelques années.
D'accompagner.
Assourdi en écoutant cette jeune femme. Je vivais exactement ce qu'elle vivait parce que c'était tellement bien raconté. Ce reportage était tellement frappant et formidablement bien fait.
C'est tout l'avantage aussi des femmes qui ont porté plainte, c'est cette description qu'elles sont capables de faire très clinique, de la précision qui leur est demandée d'ailleurs au commissariat.
Et je disais, mais quelle horreur qu'elle a vécue. Cette terreur d'être poursuivie, la terreur littéralement d'avoir quelqu'un qui passe à attouchement et tu vois qu'il a envie de te violer, c'est quelque chose de terrorisant,
quand
littéralement.
Quand on imagine, alors que là on est dans une situation totale, il n'y a pas de doute possible, puisque c'est un flagrant délit de tentative de viol, d'agression sexuelle, on imagine pour celles qui n'ont pas eu de témoins, qui n'ont pas eu les policiers témoins de la scène, quelles hésitations elles peuvent être quand on voit celles qu'elle a vécues, ces atermoiements. Merci en tout cas, on va terminer là-dessus, les tchatcheuses. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et de commenter les sujets de votre choix. Merci à vous Anna Maria Merlo-Poli, correspondante de Il Manifesto, quotidien italien. Merci à vous Veijou Naravan, Paola Martinez. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions chaque jour sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine, en podcast également, et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de l'emploi des jeunes en Afrique. 30 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Alors, quelle solution? Est-ce qu'on continue à dire que tel PME a créé 5 emplois, que le numérique, que les start-up vont créer des emplois? Quelle solution massive pour répondre à ces 30 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, sur le continent africain qui connaît la plus grosse poussée démographique de la planète? On en parle demain. Et bien sûr, vous allez nous appeler, les jeunes, si vous vous reconnaissez dans ces situations, si vous vous reconnaissez aussi dans la difficulté de trouver un emploi. 33 1 84 22 71 71. RFI Talent.